premier sur l'info. Le journal présenté par Cédric Valax.
7h30, c'est l'heure du journal. Bonjour Cédric.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. La Confédération syndicale des agents communaux va-t-elle déclarer une grève? C'est la question qui se pose et la réponse sera connue demain. Après l'annonce du syndicat des praticiens hospitaliers d'un possible dépôt du préavis de grève avant l'arrivée du président de la République François Hollande dans 15 jours au Fénois, les agents communaux de la COSAC montent à leur tour au créneau. Vous saurez pourquoi en début d'édition. Dans ce journal, nous reviendrons sur le rapport annuel de la Cour des comptes remis hier au président de la République. Un rapport pointant dans le secteur de l'éducation le problème de la dotation globale de compensation prévue depuis 2009 mais jamais appliquée à la Polynésie. Nous parlerons également santé. Sous la pression des médecins, l'hôpital du Taonnet va recruter un spécialiste. Et éducation, avec quelques clés pour décrocher un premier emploi. Ça se passe du côté de l'université avec le forum étudiants-entreprises.
Et on commence avec la COSAC qui met la pression avant l'arrivée de François Hollande au Fénois.
À quelques jours de l'arrivée du président de la République, les syndicats et associations veulent décidément se faire entendre. Après les médecins mardi, la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie, la COSAC, réfléchit à un possible mouvement de grève qui sera décidé demain. Les précisions de Vaïté Oulali Ipambrin.
Après l'annonce du syndicat des praticiens hospitaliers d'un possible dépôt de préavis de grève avant l'arrivée du président de la République, François Hollande, les agents communaux de la COSAC montent à leur tour au créneau pour officialiser à la fin de semaine un dépôt de préavis de grève. La COSAC est en attente du décret émanant du Conseil d'État concernant l'article 75 et entrée entre autres, à la procédure d'intégration des agents dans la fonction publique communale. La Confédération dénonce des lenteurs administratives. Pour une source interne à la Confédération, cette lenteur est destinée à, et je cite, « laisser le temps à nos supérieurs de nous zigouiller tous nos acquis ». On demande à rencontrer la ministre de la fonction publique car il y a des inégalités de traitement. Glisse un autre syndicaliste avant d'ajouter « La fonction publique communale, c'est une vraie gabegie, car au final, dans les communes, chacun fait ce qu'il veut. Reste que ces grognes syndicales et mécontentements seront probablement déjoués par les services du Haut-Saria, comme pour l'association 193 qui s'est vue promettre une rencontre avec un collaborateur du président de la République, François Hollande, pour avorter toute idée de grosse manifestation.
Selon la loi, le décret doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'adoption du texte par le Parlement. Il est donc attendu avant le 16 avril prochain.
Éducation, on revient sur le rapport annuel de la Cour des comptes qui pointait le problème de la dotation globale de compensation prévue depuis 2009 mais qui n'a jamais été appliquée à la Polynésie.
Oui, depuis 2009, la participation de l'État pour l'enseignement scolaire est définie par une dotation globale de compensation, la DGC. Cette dotation est liée au transfert de compétences de la Polynésie en matière d'éducation. Seulement voilà, depuis 7 ans, rien n'a été fait. Le rapport annuel de la Cour des comptes remis hier au président de la République propose donc la mise en place de cette dotation à l'horizon 2017, à la date du renouvellement de la convention qui fixe les régimes de financement apportés par l'État à la Polynésie en matière d'éducation. Le Premier ministre Manuel Valls a apporté des éléments de réponse à la non-application de la DGC jusqu'à ce jour en Polynésie. Il évoque notamment des prérequis de la part de la collectivité qui ne lui semble pas totalement réunis à ce jour. Mais pour le président de la Chambre territoriale des comptes, Jean Lachka, car ce n'est pas parce que ce n'est pas fait que l'on ne peut pas commencer à le faire. Il est au micro de Valentine Gluet.
Dans la réponse du Premier ministre qui a été saisi de notre rapport, il y a probablement des prérequis dans l'organisation des services du pays qui sont peut-être pas encore tout à fait remplis. Il y a aussi des procédures administratives, la réunion d'une commission d'évaluation des charges. Sur quels critères on évaluation des charges? Sur quels critères va évoluer cette dotation? Tout ça, ça n'est pas fait. Mais ça reste à faire et c'est pas parce que ça n'est pas fait qu'on ne peut pas commencer à le faire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'opportunité qui est offerte par le renouvellement de la convention doit permettre de mettre cela sur la table parce que c'est la logique du transfert de compétences.
Dans sa réponse au rapport, le président du pays, Édouard Fritch, affirme que la mise en place de la DGC hors crédit de rémunération des personnels mis à disposition peut être envisagée. Rendez-vous donc en 2017.
Et puis le retour à l'équilibre de Itiaotra est prévu pour 2018.
Oui, c'est un des autres enseignements du rapport annuel de la Cour des comptes qui cite l'exemple de la commune de Itiaotra pour le contrôle budgétaire des communes en Outre-mer. En juillet 2013, la commune avait fait l'objet d'une première saisine en raison d'un déficit budgétaire évalué à 229 millions de francs, ce qui représentait recevrait plus de 30% de ses recettes de fonctionnement. Depuis, les comptes de la commune sont validés chaque année par la Chambre territoriale des comptes pour un retour à l'équilibre prévu sur 5 ans. On écoute Jean Lachecar, toujours au micro de Valentine Bluet.
Comme on ne peut jouer ici que sur les dépenses, évidemment, on ne peut pas rétablir les comptes en un an. Donc, il y a eu pour Itia Otera un plan de redressement sur plusieurs années, et on peut dire que la trajectoire de redressement des finances de la commune est suivie. Alors, on sera à nouveau saisi cette année, et on verra si c'est mieux que l'année dernière. Mais voilà, donc, on est en voie de rétablissement de l'équilibre, mais il y a encore un peu de travail. Donc, la commune est sous le double regard du haut commissaire et de la Chambre territoriale des comptes.
Retour à l'équilibre prévu pour 2018.
Et un triste fait divers avec cet accident mortel à Ouéiné.
Oui, il était près de 11h50 hier lorsque la conductrice d'une camionnette a fait un malaise sur la route traversière de Ouéiné dans le district de Maroé. Âgée de 55 ans, elle a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est déporté sur la voie opposée pour sortir de la piste. La camionnette a fini sa course à 5 mètres en contrebas sur le toit. La conductrice est décédée sur le coup. Sa passagère, âgée seulement de 14 ans, est sortie indemne du véhicule mais en état de choc.
Et on parle santé à présent. Sous la pression des médecins, l'hôpital du Taonnet va recruter un spécialiste.
Le syndicat des médecins du CHPF a réclamé l'embauche d'un spécialiste anatomopathologiste au Taonnet. Après avoir alerté en vain les différents services du ministère, le syndicat a menacé de lancer un mouvement de grève. On en parlait hier. Une grève qui aurait pu être effective durant la visite du président de la République, François Hollande. La décision du ministre de la Santé ne s'est donc pas fait attendre. Hier midi, en conseil des ministres, Patrick Hoel a présenté la situation des spécialistes de l'anatomie et cytopathologie. Le ministère a indiqué que depuis décembre dernier, le CHPF était confronté à l'augmentation des demandes d'analyse dues à la fermeture du seul laboratoire privé d'anatomopathologie. Le CHPF, qui disposait d'un poste vacant depuis plusieurs années, a décidé de recruter ce même spécialiste dont le cabinet privé avait fermé en fin d'année.
Et puis éducation, pour terminer avec quelques clés pour décrocher un premier emploi.
Et décrocher un emploi en période de crise, c'est la question qui se pose depuis hier matin sur le campus de l'université qui accueille le forum étudiants entreprises. 35 sociétés sont sur place pour présenter aux étudiants et aux diplômés leur cœur de métier et les guider dans leur projet de carrière. Des étudiants en quête de solutions pour entrer dans la vie active, et on le sait, bien souvent, les diplômes ne suffisent plus. En plus d'un bon CV, la clé passera par un bon entretien d'embauche. Ce premier rendez-vous ne doit pas s'improviser, il faut le travailler. Et c'est ce qu'a fait Rowena hier matin. Elle est âgée de 32 ans, diplômée en restauration, mais veut changer de parcours professionnel. Rowena s'est donc présentée à un atelier de simulation d'entretien d'embauche.
C'est très important dans le sens où je n'ai aucune expérience dans le domaine de la livraison. Et cette simulation m'a apporté en fait les conditions réelles d'un entretien d'embauche dans une entreprise qui recrute un chauffeur.
Ça te met en confiance ?
Beaucoup. Et avec beaucoup de conseils aussi.
Et des conseils, la secrétaire générale du MEDEF, Lucille Rottier, en a justement plein à donner pour ne pas rater ce premier rendez-vous avec son futur employeur. Elle animait hier matin l'un des ateliers de simulation d'entretien à l'embauche.
Le plus important, ça se passe en soi, c'est la confiance et c'est d'y croire. Et ça, c'est tout le travail préparatoire, c'est de s'approprier pleinement un poste. Quand on a envie de ce poste, on se met pleinement en tête dans les tripes qu'on veut ce poste. On y croit, on se prépare, on se met dans la tête après de l'employeur. Qu'est-ce qui va l'intéresser? En quoi je peux lui être utile? Qu'est-ce qu'il va chercher à savoir? Quelles sont les questions pièges qu'il va me poser? Quelles sont celles qu'il va pas me poser, auxquelles je peux quand même répondre ou apporter des éléments de réponse pour lui donner envie, lui dire que c'est moi la bonne personne et que je veux lui démontrer pendant cet entretien que c'est moi qui dois choisir plutôt qu'un autre.
Le prochain atelier sur comment réussir son entretien d'embauche est organisé ce matin de 10h30 à midi dans la salle G31 de l'université. Sont également organisés en parallèle des ateliers de simulation d'entretien d'embauche en tête à tête avec un professionnel des ressources humaines. Il est préférable de vérifier à l'avance s'il reste des places, et ça se passe, comme je vous le disais, à l'université.
Retrouvez l'info en continu
Radio 1.
Sur radio1.pf.